France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France vous propose ce soir une série de rencontres avec ceux qui tente de redynamiser le cœur des campagnes, redonner vie au village. C'est la vocation de la coopérative Village Vivant, qui achète, qui rénove et puis qui loue des locaux qui étaient restés vacants dans les communes. Voilà comment sont réapparus des commerces qui avaient fermé dans les territoires. Agir contre la désertification rurale, donc. Et pour finaliser les prochains projets à travers la France, Village Vivant organise des levées de fonds. On en parlera avec l'un des co-fondateur de cette SCOP. Village Vivant existe depuis 8 ans. Depuis 2017, ils ont redonné vie donc à une trentaine de lieux dans des communes pour à chaque fois retisser du lien entre les habitants. Ce soir, on va donc rénover, on va créer des boutiques, on va relancer des activités perdues et surtout, on va tisser du lien social. C'est le thème d'une semaine en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Éric Delvaux. Le 18-20.
Avec un premier témoignage, bonsoir Corentine Poncet.
Bonsoir.
Vous êtes la patronne de la boulangerie chez Cocotte, boulangerie qui fait aussi épicerie. Le lieu était fermé depuis plusieurs années à Gibles, hein, 600 habitants en Saône-et-Loire. Expliquez-nous d'abord comment la coopérative Village Vivant est intervenue dans ce projet.
Alors le lieu n'était pas fermé, mais il était en vente. Il allait fermer sous peu. Et avec mon conjoint, on avait pour volonté de rouvrir, de s'installer à la campagne et d'ouvrir une boulangerie. Mon conjoint était en boulangerie. Et on a su que c'était en vente et on a voulu trouver des partenaires solides pour monter ce projet. Parce que c'est vrai que on n'avait pas forcément les moyens d'emprunter, d'apporter un apport, etc. Et donc on est rentré en contact avec Village Vivant, on a fait la première réunion d'information et puis ensuite, de fil en aiguille, on a fait des réunions avec les personnes qui travaillent chez Village Vivant pour monter un dossier solide et que ce soit finalement validé par leur comité de sélection et pour être soutenu.
Et comment avez-vous connu cette coopérative Village Vivant? C'était le bouche à oreille?
Oui, c'était le bouche à oreille par d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire sur Lyon. On était à Lyon avant.
Et quand on dit boulangerie chez Cocotte, à Gibles, ça vient de votre prénom, Corentine?
Non, c'était un peu lié, mais c'était surtout qu'on a un projet d'habitat participatif dans le village d'à côté avec des amis, et que notre SCI s'appelle les Poupoules. Donc on était resté un peu dans le champ lexical de la volaille.
Il a fallu 8 mois de travaux pour relancer cette boutique. Dans quel esprit avez-vous retransformé ce lieu?
Eh bien, en fait, on l'a agrandi parce que c'était une boulangerie seulement à la base, mais l'épicerie du village ayant fermé en 2019, l'ancienne propriétaire avait fait en sorte d'installer des étagères dans son local pour continuer à fournir ce service de dépannage avec de l'épicerie. Mais c'est vrai que c'était un lieu qui n'était pas adapté pour avoir et une boulangerie et une épicerie, donc elle a eu le courage de le faire dans son petit local. Et donc nous, quand on est arrivé, on a voulu continuer ces deux offres, boulangerie et épicerie, mais dans un lieu qui pouvait accueillir l'épicerie correctement.
Donc ce n'est pas seulement une boulangerie, c'est aussi une épicerie. Il y a donc une vocation bien sociale dans votre projet.
Oui, bah d'où vous me parliez du nom chez Cocotte, mais c'est vrai que le chez aussi était important pour nous, parce qu'en fait, on habite sur place, nous, en famille, on a 3 enfants, et donc il y a vraiment quelque chose où les gens rentrent un peu chez nous quand même, c'est assez perméable entre chez nous et la boulangerie, épicerie, et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'accueil et de partage avec les gens qui sont là, et ça nous a permis aussi, en ouvrant la boutique, de remettre quelques tables pour prendre un café, et de rendre le lieu de nouveau assez chaleureux. On a fait en sorte que les gens s'y sentent bien. Ouais.
Donc vous êtes devenu un bar, même s'il n'y a pas encore la licence 4. On peut prendre son café, c'est un lieu de rencontre dans le village. Tout le monde l'a bien apprécié, ça?
Oui. Les gens l'ont bien apprécié. Donc déjà, c'est bien sûr que ça reste ouvert, que ça reste un lieu. C'est vrai qu'un commerce qui ferme dans une campagne, dans un village, ça fait un mal fou. Et notamment une boulangerie qui est pour certaines personnes un lieu de fréquentation quotidienne. Et donc c'est vrai que les gens s'y rencontrent, s'y retrouvent pour boire un café ou s'y rencontrent un peu par hasard et sont contents, ils sont contents de se retrouver, ouais, d'avoir ce lieu pour se retrouver.
Contents de se retrouver, parce qu'il faut peut-être préciser que le premier village à côté de Gibles est assez loin, hein, à combien de kilomètres?
Alors le premier village avec une boulangerie, en tout cas, c'est à 9 km.
Ouais. Et est-ce qu'on vient... Et est-ce qu'on vient de loin parfois pour partager un moment dans votre commune et dans votre boulangerie-épicerie maintenant ?
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de loin maintenant aussi parce qu'on fait une offre de pain bio et au levain. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément très fréquent dans le coin. Donc il y a certaines personnes qui viennent parfois de loin et qui nous font des commandes assez conséquentes, ouais, tout guillemets.
Et si on... Et si on essaye de parler d'avenir, quels événements souhaitez-vous organiser à partir de votre boutique pour redynamiser encore plus les liens sociaux dans ce village ?
Alors nous, donc il y a le commerce, et c'est vrai qu'on fait aussi, on a aussi un lien entre les assos, les associations et les gens du village qui, eux, quand ils organisent des événements, profitent du fait qu'on puisse avoir une boîte pour récolter les sous, pour une inscription à tel ou tel événement, ou mettre des affiches. Donc ça permet aussi de faire du lien, et indépendamment de nos événements à nous. Et nous, là, on fait beaucoup de choses. Pour l'instant, on est vraiment sur notre boulangerie-épicerie, et puis c'est vrai qu'on essaie de faire des focus un peu sur la Noël. On a essayé de faire certaines choses pour rendre un peu plus dynamique la boutique. Et après, en événement, on fait des pizzas emportées le vendredi soir. Et on aimerait bien développer un peu ça. Pourquoi pas permettre aux gens de s'inscrire et faire quelques événements en soirée, pourquoi pas.
Et j'entends que vous avez profité de cette période de Noël pour réinventer encore un peu de lien social. Qu'est-ce que vous avez fait précisément pour Noël ?
Eh bien, on a décoré un peu la boutique, ça, pour mettre un peu le folklore dans notre boutique. Et puis, on a essayé de contacter des artisans locaux à qui on a passé des commandes pour vendre par exemple, des pâtes de fruits, des chocolats dans des boîtes illustrées, ou des tisanes, ou des savons. Et c'est vrai que c'est fait dans les villages d'à côté. Et ça permet de mettre en lien aussi les villageois avec des artisans qui connaissent pas forcément. Donc, c'est intéressant. Et c'est vrai que ça permet de redynamiser, de redéfinir un certain tissu social et commerçant dans cette région. On est content de pouvoir faire ça, oui.
Ben, on est content pour vous aussi. Expliquez-nous à quel point il y avait une demande des 600 habitants de Gibles d'adhésion à votre projet.
À quel point il y avait une demande ? Par exemple, on a fait, comme vous avez dit tout à l'heure, on a fait 8 mois de travaux. Et c'était beaucoup, une fermeture de 8 mois de la boulangerie. Et donc, on a mis en place un dépôt de pain, par exemple, pour maintenir l'offre de pain et de journaux pendant tous les travaux. Et c'est des bénévoles du village qui se sont portés volontaires pour maintenir, pour faire les permanences de dépôt de pain pendant les 8 mois. Et voilà, ça a permis de maintenir cette offre. Donc, c'était vraiment attendu. Ils ont fait en sorte que l'offre reste maintenue en nous attendant, quoi. Donc, c'est vrai qu'on était... Bien attendu
à Gibles. D'un point de vue plus personnel, est-ce que cette boulangerie-épicerie est devenue un commerce rentable pour vous et votre mari boulanger ?
Oui. On est une SCOP, donc c'est un modèle économique un peu particulier qui fait qu'on n'est pas vraiment patron. On est associé et puis on va chercher d'autres associés pour dans un mode coopératif, et parce que comme ça, il n'y aura pas d'histoire d'emprunt, de fonds de commerce, pour racheter le fonds de commerce ou le bâtiment à la fin. Et aussi grâce à Village Vivant, parce que c'est vrai qu'ils nous ont aidés ils cherchent des modèles coopératifs. Et donc, ça permet aussi de ce genre de pérennisation des commerces. C'est-à-dire que nous, ça ne va pas fermer quand on partira, même si les personnes n'ont pas les sous pour racheter le fonds de commerce, parce qu'on ne va pas le vendre, on va le céder.
Vous allez le céder, mais est-ce que vous êtes là pour longtemps à Gibles ?
Oui, nous on est là pour longtemps, on a 3 enfants en bas âge, on achète une maison à côté avec des amis en habitat participatif, donc on est là pour longtemps. Et c'est vrai qu'en termes de succès, on a commencé à 3 et maintenant on est 8. Donc c'est vrai qu'on a embauché un peu plus que prévu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était aussi pour nous permettre de vivre...
De vivre en famille aussi un petit peu, parce qu'on sait que le métier de boulanger est prenant. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage, Corentine Poncet, patronne donc de la boulangerie-épicerie chez Cocotte, lieu de vie à Gibles, en Saône-et-Loire. À suivre le reportage de Sandrine Houdin, nous irons dans le département de l'Ain voir comment un autre village s'est redynamisé grâce à de nouveaux lieux de vie. Merci d'écouter France Inter, il est 18h27.
Debout sur toi, la soirée, elle fait les tresses, le week-end. Bon Dieu là, passe au sol, splash dans tes termes, cache dans la team, supposé. Ça me fascine, oui ça me plaît. Elle fait le chien, on sans les vagues dans les draps. Elle est fraîche de la tête au hoc. Elle sent le parfum Sephora. Douce comme un Ferrero, c'est cute, c'est délicieux. L'a mis le top en coquillage, trop fraîche, pas de maquillage. Son petit crop top rétro, c'est trop lolo. Bébé big brains, gros lolo. Son body, c'est pas un film d'auteur, c'est un blockbuster. Debout, j'adore la semaine. Elle fait les tresses le week-end. Bon deal, pas tout seul. Splash dans tes DM, cash dans le team. Sweet pussy, god damn. Ça me fascine, oui ça me plaît. Elle fait le chien en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps. Pas de bachata, que du chata, baby, pas
il faut
de bachata,
si je le fais.
Que du chata, baby, pas de bachata,
il faut te marier,
que
je
du
le
chata,
fais.
Baby, pas de bachata. Debout, j'adore.
D'accord, on va manger ça. Elle est autrice, compositrice, chanteuse et actrice. C'était Mira avec son titre Splash. C'est le choix de Djoubaka. Je vous présente une partie de l'équipe d'Une semaine en France. Corinne Boulou à la rédaction en chef, Stéphane Combe à la réalisation. Un grand merci à Hugo Vlamin qui m'a grandement aidé à préparer cette émission aux petits oignons. Il est bientôt 18h30.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France consacrée donc à ces villages qui veulent retisser du lien social, favoriser les rencontres entre les habitants. Nous partons maintenant à Meximieux, commune de 8000 habitants entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Une poignée d'habitants étaient désespérés de ne pas pouvoir acquérir un lieu dédié au vivre ensemble. Il leur manquait de l'argent pour donner vie à leur projet. Et c'est donc Village Vivant qui leur a acheté cet espace baptisé FICA. FICA, les initiales de faire, initier, coopérer, agir. Et ce lieu abrite désormais une dizaine d'ateliers pour favoriser les rencontres. Faire pour les habitants et par les habitants, c'est la vocation de l'atelier FICA. Il a ouvert il y a 2 ans. Reportage micro ouvert de Sandrine Houdin.
Peinture, dessin, photo, impro, jardinage, bricolage, soutien scolaire. Les ateliers sont affichés sur la grande baie vitrée. C'est exprès pour voir de l'extérieur et donner envie de pousser la porte. Eh bien, c'est ce qu'on va faire.
Allez, à la soupe, à la soupe. Tiens, tu peux me passer les bols, s'il te plaît. Merci.
Qui a fait la soupe ?
Moi.
Soupe à quoi ?
Alors là, c'est rutabaga, poireaux, carottes. Babette, tu veux de la soupe ?
Babette, c'est le petit nom d'Elisabeth Brasier, la fondatrice.
C'était quoi avant ? On est où ici ?
Donc ici, on est dans un ancien institut d'esthétisme. La personne avait différentes petites cabines dans lesquelles elle faisait les soins. La pièce que tu vois là au fond, qui est aujourd'hui une cuisine, bah en fait, avant, c'était un atelier garage. Il n'y avait pas d'isolation. Le toit, on voyait les tuiles, en fait. Il n'y avait plus de toit. Et le sol était un espèce de béton terre battue.
Un an et demi de travaux, je crois.
Un an et demi de travaux, à la fois des gros travaux. Et puis nous, on a bah, après customisé, on va dire. Toute la façade qu'on voit, c'est des collages.
C'est hyper coloré, quoi.
Oui. Et voilà Claudine pour l'atelier tricot.
Sandrine, je vous salue, France Inter. Vous venez tous les...
Eh bien, environ une fois par semaine.
Tiens Gérard, 10, c'est 10.
La petite salle se remplit.
Alors vous, vous avez amené quoi pour déjeuner ?
Un petit gratin de butternut.
Et voilà Laurane parmi les plus accros.
Avant, j'étais prof de peinture à mon compte en auto-entreprise. Et maintenant, eh ben, je viens dispenser mon savoir à celles qui veulent bien. J'ai aucune obligation de résultat. Personne n'est inscrit, vient qui veut. Voilà. C'est le principe ici. Hein. Il n'y a personne qui décide pour nous. Personne ne vient nous prendre par la main pour dire il faut faire comme ci, comme ça. J'ai eu du mal à comprendre, mais une fois qu'on a adopté, c'est top.
Laurane, qui vient avec son fils Baptiste, porteur de handicap, très touchée de voir que lui aussi se sente si bien ici.
Ouais, merci Atelier Fika, Baptiste Heureux.
À l'atelier Fika, qu'est-ce que tu trouves sympathique?
Alors, tu chantes, allumez le feu, aïe flamme, tous les cieux. Voilà.
Pour Baptiste. C'est parti de quel constat, Fika?
C'est parti qu'il n'y avait pas de lieu où on pouvait se réunir entre habitants, juste pour le plaisir de se réunir et de rencontrer des gens. Soit on est dans un commerce, soit on est dans une association, mais qui a un objet précis. Et le centre d'intérêt qui est juste la rencontre, en centre-bourg, ça n'existe pas vraiment.
Sans village vivant, c'était impossible.
C'était impossible. On n'avait pas la capacité d'acheter. Et donc la seule façon pour qu'on puisse avoir un lieu ouvert à tous, c'était de demander à ce que Village Vivant l'achète pour nous et devienne nos propriétaires. C'était juste un cadeau inespéré.
Thibaut confirme.
Ça permet de croiser plein de gens, d'avoir des activités sur des sujets qu'on ne fait pas du tout. Enfin, j'ai rencontré des gens qui font du tricot, de la couture, de l'art plastique, de la récup, du bricolage. Donc enfin, vraiment, on touche à tout et c'est vraiment chouette, quoi. Et moi, je me suis dit, si Fika, ça vient disparaître, ça va devenir terriblement chiant, en fait, la ville.
L'atelier tricot.
Ça ressemble au bistanclac.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est des machines à tisser des Lyonnais, des canuts.
Et toutes ces dames s'y sont essayées.
On a déliré avec la machine à tricoter.
Votre prénom, madame?
Moi, mon prénom, c'est Sylvaine.
Je peux me permettre de vous demander votre âge?
72 ans. Ça, c'est un petit pull pour mon petit neveu qui vient de naître. Claudine, s'il te plaît. Si je veux faire une augmentation, c'est bien de une maille tous les 6 rangs.
Comment trouvez-vous l'association Village Vivant?
C'est superbe. Il y a combien de bâtiments dans les villages qui sont à l'abandon et qui pourraient être utilisés par des associations?
Comme l'atelier Fika, dont elle aussi ne peut plus se passer.
Ah oui, ah oui. Ça permet de se réouvrir au monde, parce que à 72 ans, les gens ne vous parlent déjà plus de la même façon.
Ça comble quelque chose, ça comble une solitude.
Ça comble un certain vide, hein.
Ça vous fait du bien.
Ah oui, oui, moi je me fais du bien quand je viens ici. Vous voyez, là, regardez, il y en a une qui fait du crochet, qui va discuter d'autre chose. Là, il y en a qui discutent peut-être de pâtisserie, ou de là, il y en a une qui travaille sur l'informatique. Ça fédère. C'est un petit peu comme dans les villages, avant, il y avait les anciens qui allaient s'asseoir devant leur porte avec leur chaise l'été, puis qui rencontraient tout le monde et puis qui bavardaient, ça faisait des petits groupes. Maintenant, ça n'existe plus.
Un tel lieu manquait donc, avec ces lieux.
Ah oui, c'est sûr. C'est vivant. Il y a de la vie.
Voilà, il y a de la vie dans ces ateliers, tricot, informatique, pâtisserie, une maille, tous les 6 rangs, on a bien entendu. Voilà pour ce reportage micro ouvert de Sandrine Houdin à Messimieux, dans le département de l'Ain, dans ce lieu de vie qui n'aurait pu voir le jour sans l'intervention et le soutien de la coopérative immobilière et solidaire Village Vivant, qui a acheté donc et rénové cet espace avant de le louer. Et nous sommes en ligne avec l'un des trois co-directeurs et fondateurs de Village Vivant. Bonsoir Sylvain Dumas.
Bonsoir Eric.
Vous avez donc cofondé cette coopérative immobilière et solidaire installée à Cray dans la Drôme. En 2017, comment est née cette idée de redonner vie à des villages désertés?
Eh ben, d'avoir un constat assez négatif, désespérant, de traverser des villages sans aucun commerce, des centres-bourgs avec une boutique vide sur deux. Et puis le sentiment que d'un lien, d'endroit de vie pour se rencontrer qui était en train de se perdre, avec des répercussions très très multiples, hein, sur l'emploi, sur les filières, sur le patrimoine, sur la qualité de vie en fait dans les territoires ruraux, et peut-être en alimentant un sentiment de repli sur soi. Et puis d'autre part, un sentiment, un constat très positif, celui de voir des habitants comme ceux que vous avez cités, qui réinventaient des épiceries, des commerces, qui transformaient des lieux en friches, parfois des usines, parfois des auberges, pour essayer de redonner vie à ces lieux. Et à chaque fois, quand on discutait avec les copains avec qui on a fondé Village Vivant, on voyait que l'immobilier était un problème. C'était toujours un sujet. Ils se prenaient un mur, j'ai envie de dire, puisque il fallait sortir beaucoup d'argent et gérer une ingénierie qu'ils n'avaient pas. Alors avec les trois copains, on s'est dit on va créer une structure, on appelle ça une foncière solidaire, qui vient gérer de l'immobilier, et pas dans une logique patrimoniale, pas dans une logique d'enrichissement, mais au service d'une cause sociétale.
Et le bouche à oreille a fait le reste. C'est important pour vous que le projet local soit initié par et pour les habitants eux-mêmes.
Et oui, qui sait mieux que les habitants ce dont ils ont besoin et ce qu'ils sont capables de faire? Ben, c'est bien eux. Donc l'idée, c'est à chaque fois de partir d'un projet qui est monté par des habitants dans une logique entrepreneuriale, coopérative ou associative. Donc souvent dans l'idée de ramener un service ou un bien qui peut manquer et un petit supplément, comme ça a été évoqué dans les témoignages, un lieu où on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir recréer du lien, on va pouvoir faire des découvertes et donc oui, tisser des liens. Et
vous
à
dites...
chaque fois, oui.
Je vous en prie, à chaque fois.
Et à chaque fois, c'est ces projets qui nous intéressent et ce sont eux qui viennent à nous. Puisqu'au moment où ils se rendent compte que l'immobilier est un problème, ils font appel à nous et nous, on étudie la viabilité, parce qu'à un moment, il faut aussi quand même être rationnel. Est-ce que le projet est économiquement viable?
Mais quand vous dites que c'est compliqué pour un collectif solidaire de se lancer dans des projets immobiliers rarement accessibles dans de bonnes conditions, qu'est-ce qui est, on va pas être trop technique non plus, mais qu'est-ce qui est compliqué quand il faut lancer un projet?
Ben, si on prend l'exemple de chez Cocotte, déjà, lancer sa boulangerie, ça fait appel à tout de multiples compétences qu'elle doit gérer, qu'elle doit apprendre si c'est une reconversion. C'était le métier de son compagnon, mais c'était un nouveau métier pour Corentine. Donc, lancer cette activité, c'est déjà tout un sujet. Trouver tous ses fournisseurs en local, puisqu'il y a toujours l'idée de travailler, de faire une priorité aux filières locales. Donc elle a voilà, tout un sujet autour de sa création d'entreprise. Et si on rajoute le projet immobilier, donc pour chez Cocotte, on parle d'un projet avec 350 000 euros d'opérations immobilières, à peu près 100 000 euros d'achat et des travaux ensuite très conséquents. Ça rajoute une charge mentale, ça fait appel à des compétences, à des préoccupations qui peuvent être de trop et qui peuvent être un frein, hein, parfois. On a des projets qui ne voient pas le jour parce que l'immobilier est simplement trop cher ou trop complexe en termes de réhabilitation et de mise aux normes. Ou alors, ils voient le jour, mais les porteurs démarrent et en fait, ils ont déjà couru un marathon. Et le jour de l'ouverture, ils sont déjà épuisés et donc ils ne sont pas au mieux de leur forme pour lancer leur activité.
Et donc, vous insistez, évidemment, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Derrière l'esprit solidaire, il faut tout de même des fonds. Votre dernière levée de fonds citoyenne, il y a quelques jours, vous a permis de récolter plus d'1 million d'euros pour financer les 6 à 8 futurs projets. Où va l'argent? Il passe par une foncière solidaire?
Oui, alors, la levée de fonds est en cours. Hein. Tous les citoyens peuvent nous rejoindre et investir dans notre coopérative, hein, ce ne sont pas des dons, hein, ce sont des placements, les gens peuvent les récupérer et au moment où ils souscrivent, ils peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Là, on en est à 1 150 000 pour 2025. Depuis le début de Village Vivant, si on cumule tous les emprunts bancaires, les investissements qu'on a eus, qu'on a reçus de la part de la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de banques coopératives, on a levé à peu près 17 millions d'euros pour acheter 32 biens immobiliers. Et puis, on est aussi très fiers, et c'est vraiment très important, puisqu'on a plus de 1000 citoyens qui ont investi, certains, des petites sommes symboliques. Et on croit vraiment à l'effet Colibri, avec 100 euros d'un côté, 1000 euros par là, 300 euros, et puis parfois des sommes un peu plus importantes. C'est grâce à tous ces efforts, toutes ces contributions, qu'on arrive à réaliser ce qui commence à avoir un peu d'envergure, puisque 32 lieux ouverts dans 14 départements, on commence à avoir un changement. Et puis au-delà de ce qu'on fait nous avec notre foncière, on voit qu'on est dans un courant qui est dynamique. On voit que d'autres personnes, d'autres collectifs, d'autres mairies, d'autres élus s'inspirent de ce qu'on fait ou d'autres acteurs proches de nous et démultiplient.
Vous êtes en train de faire des petits dans, pour l'instant, 14 départements, 8 ans que vous existez, une trentaine de projets. Quels sont les projets finalisés dont vous êtes le plus fier?
Tous les projets sont extraordinaires et surtout derrière les projets, ce sont des personnes comme Corentine, comme Elisabeth, comme Arthur, comme plein d'autres qui ouvrent des lieux. On pourrait parler de l'auberge de Beaufre en Ardèche. J'en suis pas plus fier que les autres, mais c'est que c'est un de nos premiers lieux et au bout de 5 ans, ils sont toujours en activité, ils se développent, ils ont pérennisé 7 emplois. Régulièrement, ils organisent des soirées, des événements qui brassent du monde, les gens du village, les gens de la commune d'à côté. On peut parler aussi de la pompe à Florac, en Lozère, qui vient agréger un café, des ateliers d'artisans, un petit coworking dans une ancienne quincaillerie, donc un lieu qui s'est vraiment transformé. Où là, tout récemment, on vient d'acheter une usine pour faire un tiers-lieu à Cray. Il y a un attachement particulier à ce projet, puisque c'est là qu'est née l'idée. C'est en transformant cette usine il y a 8 ans, qu'est née l'idée de village vivant. Donc aujourd'hui, on rachète cette usine et c'est très, très symbolique pour nous.
Et vous ne retenez, je crois, que 5 à 10 projets par an. C'est un choix de votre part de ne pas en prendre plus ?
Et oui, on veut avoir l'occasion d'aller boire des coups dans chacun de ces lieux et de faire connaissance avec toutes ces personnes extraordinaires qui les montrent. On veut travailler à une échelle pas trop grande, donc 14 départements, on va dire, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et un petit peu au-delà. Et donc on vient plutôt privilégier l'essaimage, plutôt de suggérer à d'autres de s'inspirer de nos méthodes, de nous piquer nos recettes.
Beaucoup de coopératives comme la vôtre aujourd'hui qui voient le jour.
Ça pousse de plus en plus. Oui, on dira que il y a une quinzaine de foncières solidaires qui sont en train de se monter un peu partout en France, pas forcément que sur la thématique ruralité, certaines plutôt sur des moyennes villes ou d'autres sur des sujets sur l'accueil de publics précaires, différents sujets. En tout cas, il y a une dynamique en cours.
Eh bien, bravo. Bravo et merci de ce témoignage, Sylvain Dumas, cofondateur donc de cette coopérative immobilière et solidaire Village Vivant. Dans un instant, on va entendre le point de vue d'un maire de commune. Ce sera après la pause musicale. Merci d'avoir choisi France Inter. Vous écoutez Une semaine en France et il est bientôt 7h moins le quart.
I'll be there, reach out, ça date de 1966, le groupe américain The Four Tops, l'un des groupes de la Motown. À la technique ce soir, Corentin Rouchy, Thomas Allard et Loïc Frapsos.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
La suite d'une semaine en France consacrée ce soir aux initiatives qui redonnent vie aux villages confrontés à la désertification. Nous sommes en ligne à présent avec le maire de la commune de Venon, c'est en Isère. Bonsoir Marc Audon.
Bonsoir.
Venon, 900 habitants. Venon ou Venon d'ailleurs ? Venon, hein ?
Venon.
Venon, 900 habitants sur les hauteurs de Grenoble. Votre commune fait partie des derniers projets soutenus par Village Vivant pour relancer il y a quelques mois un bar qui s'appelle le Petit Bistrot. C'est d'ailleurs le seul commerce de ce village. Ce bar était fermé depuis de longs mois après la retraite de l'ancienne gérante. Comment a-t-il pu reprendre vie ?
Eh ben, après un an de fermeture, il y avait beaucoup de travaux à faire et puis surtout, il fallait arriver à lancer le projet coopératif solidaire. On avait les jeunes qui étaient motivés, 4 jeunes qui avaient un très beau projet, mais comme ça a été expliqué très bien par le responsable de Village Vivant, on avait un souci financier pour arriver dans notre commune qui est où on a une pression foncière, où on a aussi un peu de difficulté pour ne pas devenir une commune dortoir, garder une vie vraiment dans ce village. Et voilà, c'était un gros projet avec des travaux qui ont pu être faits, puisque les murs ont été achetés par un Village Vivant. Et donc avec un projet coopératif, avec aussi la participation des habitants autour d'une ils ont lancé une petite ulule là, pour avoir quelques travailleurs en coopérative. Mmh. Ils ont retravaillé sur un an hein, pour faire les travaux, mettre aux normes et puis ouvrir.
Les banques n'avaient pas suivi les 4 personnes au départ du projet. Comment est venue l'idée de vous rapprocher de Village Vivant ?
Alors, c'est vrai que on était un peu embêtés parce que il fallait trouver une solution. Ils étaient venus, ils s'étaient retournés vers la mairie puisqu'on suit le projet. On était très intéressés pour maintenir ce bistrot fonctionnel avec tout le projet d'ouverture aussi culturelle. Et donc, on était en train de regarder comment on pouvait, nous, éventuellement, la commune, acheter les murs. Mais c'était quand même très difficile pour une commune de notre taille d'investir comme ceci. Et puis, on n'avait pas forcément les compétences, tout ce qu'il fallait pour pouvoir fonctionner. Alors, par le bouche à oreille, un peu du monde de l'économie sociale et solidaire, on a eu ce contact. Et les jeunes ont pris contact avec Village Vivant. Et voilà, Village Vivant après est venu vers moi et pour qu'on regarde ensemble un peu le projet, le contexte. J'ai beaucoup apprécié hein, leur démarche, on va dire posée, réfléchie, voilà, en lien avec.
Sans vouloir faire d'immobilier et d'opérations immobilières au passage, en quoi l'action de Village Vivant est-elle complémentaire de l'action d'une commune ?
Et ben justement pour que la gestion on va dire du foncier à destination hein, de commerce comme ceci d'un bistrot et surtout dans l'idée de refonder un bistrot avec une ouverture mais comme ils avaient en projet hein, c'est-à-dire de faire des programmes musicaux du théâtre de faire aussi on va dire participer à la vie du village nous c'était vraiment en termes de commune on est en moyen limité hein, c'est-à-dire sur ça on est obligé de faire vivre principalement, on a une école, nous avec 75-76 enfants, on a tout le reste à maintenir et parfois c'est très difficile, donc là ça vient de façon très complémentaire, voilà, puis ça permet nous de nous occuper du reste, hein, c'est-à-dire quand vous recevez une équipe qui travaille, ben, il faut aussi qu'ils puissent être logés pas trop loin, il faut pouvoir recevoir les enfants à l'école, il faut pouvoir aménager autour le parking, toutes ces choses qui sont là et qui occupent déjà pas mal une commune. Voilà, donc c'est vraiment très complémentaire avec nous.
Ah, expliquez-nous dans quelle mesure ce bistrot, ce lieu social est devenu crucial pour redonner vie à ce village de Venon.
Alors, crucial parce que lorsque vous êtes en lien avec l'école, vous avez du contact avec les habitants. Après, vous avez toute la vie associative, hein, qui est quand même très riche sur le village, mais vraiment le bistrot pour pouvoir, on va dire, boire un coup, passer un moment, faire, comme ils l'ont mis en route, là, le dernier jeudi du mois, une soirée jeu de société, ou un soir, vous avez envie de venir manger, rencontrer du monde, ou même à midi, hein, vous avez des rendez-vous à la mairie, vous pouvez aller manger au bistrot, rencontrer les gens, discuter, recevoir aussi, prendre la température du village, c'est vraiment très très important pour nous. Hein,
Et qui fréquente ce bistrot désormais alors ?
Principalement les habitants, mais les gens aussi un peu autour qui aiment bien venir, on va dire, faire quelques kilomètres pour venir goûter la cuisine, les produits locaux et vraiment qui sont préparés avec beaucoup de sens et de talent. Hein. Donc, mais on a une clientèle qui est autour, hein, principalement, hein, de venant.
Alors, je crois savoir que les retraités ont leur jour de réserver au bistrot. Qui a voulu ça ? Qui a souhaité ça ?
Alors, c'est pas forcément que le jour est réservé, mais c'est que quand vous êtes habitant à Venant, ben vous aimez bien avoir vos habitudes. Et quand vous êtes à la retraite, ben vous savez que c'est ouvert tel jour. Et alors souvent, parmi nos plus anciens, ils aiment bien avoir leur jour où ils viennent manger. Il y en a qui viennent manger le jeudi, ceux qui viennent manger le mardi à midi. Voilà, c'est comme ça.
Ouais. On va rappeler que ce n'est pas simplement un bistrot, hein, c'est aussi une vocation sociale, et notamment culturelle. Ça passe par quoi le culturel dans ce bistrot ?
Alors, actuellement, ils font deux samedis par mois où ils font une soirée thématique. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être tout ce qui peut être un peu une ouverture culturelle. Donc ça, c'est très agréable. Il y a un jeudi par mois qui est aussi là sur les jeux de société. Et puis, de temps en temps, ils font aussi un relais poste, un relais épicerie. Voilà, donc c'est du service aussi qui peut être rendu aux habitants et qui est toujours très appréciable.
Et après le bar, le petit bistrot, est-ce que vous espérez à Venon ouvrir d'autres commerces dans ce village ?
Alors, c'est difficile, hein, de maintenir un commerce puisqu'il faut que vous ayez une zone de chalandise suffisante. Par contre, on a monté une AMAP, donc une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui fonctionne tous les mercredis et où on a beaucoup d'habitants qui viennent, hein, puisqu'il y a plus de entre 50 et 60 personnes ou foyers réguliers. Et ça nous permet aussi de pallier la distance qu'on peut avoir pour l'accès à certains commerces. Voilà, mais c'est, vous savez, sur un village de notre taille, c'est difficile de maintenir les commerces aujourd'hui. Hein, la concurrence est forte sur pas mal de choses.
C'est pour cela que nous avons mis la lumière ce soir sur ces initiatives. Merci beaucoup, Marc Audon, d'avoir témoigné en direct. Marc Audon, maire de Venon, donc en Isère, 900 habitants. Et puis nous irons donc prendre un café à ce petit bistrot, seul commerce qui a redonné vie à votre village sur les hauteurs de Grenoble. Il est 18h55, voici les Rolling Stones sur France Inter.
Angel, when will those clouds all disappear? We'll be right back.
les Rolling Stones en 1973, chanson que l'on doit en grande partie à Keith Richard. À suivre, le journal de 19h de Sarah Mansoura. Et puis à 19h20, rendez-vous au téléphone sonne. Question ce soir sur les cyberattaques, la cybercriminalité, une activité en forte expansion. Elle touche aussi bien les individus que les institutions, les PME. Eh bien, quels outils existent pour mieux s'en prémunir? J'attends vos témoignages 01 45 24 7000 ou bien sur l'appli Radio France. Le téléphone sonnera jusqu'à 20h.